Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Bulle 93.6. Et aujourd'hui, nous recevons certains membres d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi d'une association TGV. Tous.
TGV en Albret, très grande vigilance en Albret.
Voilà. Donc, qui était une émission qui est en quelque sorte un droit de réponse à l'intervention et à l'interview que nous avions fait de Jean Dionis il y a déjà quelques mois, précisément sur ce sujet, donc de la LGV. Alors, avec moi, j'ai M. Florent Prévost, co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Florent.
Bonjour Patrick.
J'ai Bernard Perret, que nous connaissons bien sur Radio Bulle, qui est un militant Europe Écologie Les Verts, mais également un ancien président de la commission agriculture entre 2010 et 2015 au Conseil régional. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Avec moi également Catherine M, vice-présidente de TGV, donc qui vient d'expliquer ce qu'était la très grande vigilance en Albret. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Et enfin Jacques Doucet, qui est membre précisément de cette association TGV.
Oui, bon. Bonjour.
Bien, en introduction, parler un peu du projet LGV avec nous, donc Bernard, à qui je donne la parole.
Voilà, donc la LGV, cette fameuse LGV qui est un véritable serpent de mer, puisque ça fait déjà de nombreuses années qu'il est question de balafrer notre paysage avec cette ligne-là. Nous pensions d'ailleurs à un moment donné qu'elle était abandonnée, parce que vu la difficulté à réunir le financement, vu aussi la montée de la préoccupation écologique, on pensait que ce projet pouvait être abandonné. Eh bien non, c'est Monsieur Castex, Premier ministre, qui, à l'occasion d'une visite, et sans doute pour faire plaisir à ses amis politique, a relancé le projet en promettant donc des financements qui prétendument permettraient de mettre en place cette LGV. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, et nous allons essayer de dire pourquoi nous ne sommes pas partisans de la création de cette LGV.
Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi vous êtes contre cette LGV? C'est en grande partie parce que vous considérez que le train au quotidien, et notamment donc celui qui impacte directement, les Lot-et-Garonnais, il est peut-être un peu délaissé.
Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup à faire pour. Et là, on est vraiment dans la problématique écologique. Si on veut que le citoyen de base utilise de moins en moins sa voiture, il faut lui donner la possibilité de se déplacer autrement. Les TER sur la région sont déjà pas mal utilisés. Donc il faut reconnaître d'ailleurs de ce point de vue-là que la région a fait des efforts financiers pour avancer davantage, mais on est loin du compte. Et donc quand on sait que si la LGV se fait, on va dépenser une dizaine de milliards pour la créer, nous pensons que non, il vaut mieux rénover la voie actuelle Bordeaux-Toulouse, qui existe, qui fonctionne, qui a certes besoin d'être revue, d'être améliorée, d'être sécurisée, et ce qui permettra d'ailleurs, de ce point de vue-là, de gagner un peu de temps, puisque nous avons fait réaliser une étude qui nous montre que c'est tout à fait réaliste, et que ça peut se faire, pour faire vite, trois fois moins cher que la création d'une nouvelle ligne. Donc, si tant est qu'on est capable de rassembler des sommes aussi importantes pour créer la LGV, utilisons cet argent justement pour développer le train du quotidien.
Alors, précisément dans le train du quotidien, paradoxalement, on a parlé, alors je ne sais pas où ça en est exactement, mais on a parlé par exemple de la réouverture de la ligne Agen-Auch.
Alors oui, il en est question, mais je ne sais pas, d'après moi les informations que j'ai, à vérifier, Mais il semble que ça n'avance pas vraiment et que moi j'ai entendu dire qu'on était plutôt sur l'abandon de cette restauration, ce qui est tout à fait dommage. Et s'il y a abandon, c'est pour des questions de financement.
Ouais. Alors il y a d'autres aspects malgré tout sur le train au quotidien, parce qu'on peut aussi considérer que des Agenais vont travailler ou iront prochainement travailler à Toulouse ou à Bordeaux, et réciproquement d'ailleurs, des Toulousains ou des Bordelais qui pourraient très bien venir travailler sur Agen. C'est aussi là-dessus peut-être qu'a joué, je dirais, les partisans précisément de cette nouvelle gare.
Alors, il faut voir entre ce que peut offrir une LGV nouvelle et ce que peut offrir une ligne existante rénovée. La différence, alors je ne vais pas me lancer dans les calculs précis là, mais en gros, la différence de temps gagné est de l'ordre de 10 minutes, un quart d'heure, entre Bordeaux et Toulouse.
Oui, on oublie tous les villages qu'il y a entre voilà. ces deux lieux.
Donc, est-ce que ce temps-là est décisif, serait décisif pour décourager ceux qui en auraient besoin? Non, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire.
Oui, Bernard, je rebondis sur ce que tu disais. J'aimerais insister vraiment sur le côté social de cette histoire de LGV. On focalise donc sur ces 14 milliards. Et récemment, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai deux étudiants qui nous ont contactés via notre site internet lot-et-garonne.elv.fr. Tout simplement affolé par l'augmentation du tarif du TER pour aller étudier à Bordeaux. C'est 20%. C'est l'impact, l'augmentation du prix de l'énergie. Là, c'est juste un exemple. Je pourrais vous en citer plusieurs parce que nous sommes dans le groupe local très attachés à lier l'aspect social, l'aspect même sociétal, ce que ça engendre. La LGV, ça va engendrer des expropriations. Ça engendre effectivement aussi l'impact sur les terres fertiles. Elles ont déjà été bien abîmées dans la Genêt, alors on aimerait éviter que ça soit dans l'Albret également. C'est tellement, nous pensons, global et avant tout, le social est quand même... Il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas de social. Et dans cette histoire, les près de 8 milliards qu'on pourrait économiser, ça pourrait aussi... On ne parle pas de nos amis du Villeneuvois, mais... On vient de déclasser la ligne entre Penne-d'Agenais et Villeneuve-sur-Lot. Voilà, aujourd'hui, un jeune qui n'a pas de moyens de locomotion, qui veut prendre le train, il doit aller à Penne-d'Agenais, donc il ne prend pas le train. Et la fréquence des bus n'est pas assez suffisante. Il y a les bus pour les scolaires. Enfin, la mobilité dans son ensemble, et cette LGV va à l'encontre du déploiement de toutes les mobilités sur l'ensemble du territoire.
La gare de, il me semble que la gare de Penne-d'Agenais est la gare qui, finalement, est utilisée aussi par les Villeneuvois.
Oui, mais aujourd'hui, il y avait un projet qui est porté par un maire écologiste. On n'en a qu'un dans le département. Nous avons des conseillers municipaux. Mais je vais le citer, c'est Yvon Ventadoux, qui défend corps et âme depuis des années ce projet de réouverture de la ligne entre Penne-d'Agenais et Villeneuve-sur-Lot. Et aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, je ne vais pas rentrer dans des chiffres exacts, mais au début de l'été, il me semble, il y a une décision qui a été rendue justement pour déclasser cette voie en voie verte. Donc effectivement, on pourra y aller à vélo. Il y a 8 km entre Villeneuve-sur-Lot et Penne-d'Agenais, donc ce n'est pas accessible à toutes et à ouais. tous.
Bon, Catherine.
Merci. J'aimerais revenir sur un point qu'a évoqué Bernard. Un point à la fois sociétal et aussi économique concernant la desserte des villes, des petites villes intermédiaires. Aucun atout économique n'a été constaté à une exception près, Valence, sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Aucune ville intermédiaire n'a eu de gain en termes de développement économique. Ce sont des villes qui sont pour l'écrasante majorité devenues des villes dortoirs. C'est-à-dire qu'au lieu de se développer sur site de la ville, en termes économiques, avec l'arrivée de diverses entreprises. Non, non, c'est la main-d'œuvre qui a été appelée vers les villes qui sont des villes métropoles. En l'occurrence, sur le projet dont on parle, ce serait Bordeaux et Toulouse qui pourraient aspirer donc, la population à Genèse et du département en règle générale, donc vers ces métropoles, transformant les villes intermédiaires en villes dortoirs. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Le second point, ce serait les taxes qui impactent la population. On a depuis des années subi de façon absolument discrète une taxe sur les carburants, sur tous les carburants, que ce soit ceux que vous mettez dans vos véhicules ou ceux que vous mettez dans les cuves pour chauffer vos maisons. On sait aujourd'hui... Alors, cette taxe, elle s'appelle la TIPP. Une petite partie de cette taxe est laissée à l'appréciation de la région. Et la région, en l'occurrence, grâce à M. Rousset, a augmenté et porté cette taxe TIPP au maximum sur la région Aquitaine, ce qui fait qu'on bat tous les records. Le second aspect taxe, c'est la taxe foncière. Dans un périmètre de 60 km ou une heure à distance de la gare, qui pourrait être à Sainte-Colombe, les gens vont voir, les propriétaires vont voir leur taxe foncière augmenter. C'est encore.
Augmenter spécialement pour la LGV, quoi. Hein.
Absolument, une taxe. C'est oui, dédiée à LGV, bien sûr. Oui, oui. De la même manière que la TIPP. Constituer une cagnotte pour pouvoir réaliser les travaux concernant cette LGV. Un autre point qui nous porte interrogation au niveau de l'association et qui nous fâche fortement, c'est qu'on sait que la très grande vitesse, c'est-à-dire 320 km/h, vitesse qui se pratique sur les lignes à grande vitesse, consomme 5 fois plus d'électricité qu'un train qui roule à 160 km/h et 3 fois plus qu'un train qui roule à 220 km/h. Or, on entend en permanence, par les temps qui courent, des consignes, des conseils, et ce seront peut-être même des sanctions, avec des coupures de courant, etc., nous disant que le courant tend à se raréfier et que l'électricité, le prix de ces ressources énergétiques explose. On en est témoin au quotidien. Donc, où est l'utilité de faire courir des trains à 320 km/h ? 220, ce serait deux fois moins et largement suffisant quand on considère que la différence de temps entre 320 km/h et 220 serait de une vingtaine de minutes, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, sachant que la ligne à grande vitesse serait, compte tenu du deux tours qu'elle fait par Capsieu, 40 km plus longue que la ligne existante.
Ouais. Oui, sachant que si on rénovait la voie actuelle, on pourrait augmenter pour le coup la vitesse des trains sans aller, bien sûr, à la vitesse sur une LGV. Mais c'est ce qui permet donc de gagner malgré tout du temps sans aller à des consommations astronomiques.
Tout à fait. Mais les trains qui roulent à 220 km/h, hein, on nous dit que c'est impossible sur des lignes classiques. Mais ça, c'est tout à fait faux. C'est ce qui se pratique dans la plupart des pays européens, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Je ne pense pas qu'on soit plus stupide en termes de réalisation et performance technologique que ces autres pays européens.
Bien entendu.
Si je puis me permettre, on n'est pas plus stupide. J'ai vécu un petit peu en Suisse. J'ai vu, mais ça a dû changer depuis 15 ans. Je voulais juste dire quand même qu'on est dans un schéma qui profite aux grandes entreprises du ferroviaire, à celles du bâtiment, mais on laisse les petits, une fois de plus. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Là, j'aimerais aussi qu'on parle de l'aspect transfrontalier. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Si la LGV ne va pas jusqu'en Espagne, il n'y a pas de financement de l'Union européenne. Certaines collectivités, comme le Lot-et-Garonne, n'ont pas voté ce financement parce qu'ils ont déjà participé à la première partie de la LGV de Paris à Bordeaux. Je ne suis pas spécialiste de l'LGV, donc s'il y a un petit truc, vous me reprenez. J'en reviens sur l'Union européenne. Karim Adeli, donc là, moi, je parle en tant que représentant d'un parti politique. Karim Adeli est Europe Écologie Les Verts, élu parlementaire au Parlement européen, donc, et nous a assuré que pour le moment, il n'y avait pas de financement de l'Union européenne pour cette LGV. Et donc, c'est quasiment un tiers du budget qui manquerait à partir du moment où la LGV ne va pas jusqu'en Espagne.
Là, je me permets une petite précision sur ce que vous venez de dire. L'Union européenne a financé quelques études, mais on a des courriers attestant qu'elle ne financera pas les travaux de réalisation sur la Bordeaux-Toulouse. Je ne suis pas suffisamment compétente pour préciser ce qu'il en est sur Bordeaux-Dax et Hendaye, qui, elle, est une ligne transeuropéenne, contrairement à Bordeaux-Toulouse, qui, de toute évidence, ne franchit pas nos frontières.
Très bien. Je vous remercie parce qu'on va faire d'abord une petite pause musicale. Je pense qu'on va aborder dans une seconde partie donc les éventuels recours que vous avez engagés. En tout cas, je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Jacques Doucet, donc membre de l'association TGV. Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Bulle 93.6 et que nous débattons sur précisément le projet de la LGV. Jacques, il semblerait qu'il y ait des recours contre cette LGV.
Oui, bonjour. Alors, l'association s'appelle TGV en Albret. TGV, c'est Très Grande Vigilance en Albret. Oui, alors il y a déjà eu de nombreux recours qui ont été déposés, tant à différents niveaux, et on ne va plus en parler parce que tout ça a été clos il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous avons un recours au tribunal administratif de Toulouse qui a été déposé par les associations qui vont du Pays Basque jusqu'à Toulouse, auprès donc du tribunal administratif de Toulouse, contre le plan de financement.
Je précise que ce sont des associations apolitiques.
Oui, alors nous sommes une association apolitique et nous travaillons entre plusieurs associations. Donc il y a à peu près une trentaine d'associations actives qui se battent contre ce projet, qui vont du Pays Basque, la Gironde, Lot-et-Garonne, les Landes, bien sûr, également le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. Et nous nous rassemblons prochainement à Feugarolles, samedi, le samedi 26 à 10h30, pour réaffirmer notre opposition à la création de cette ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, mais également Bordeaux-Dax. Et cet ensemble qui s'appelle le GPSO, le Grand Projet du Sud-Ouest, et nous sommes tous associés contre ce projet parce que nous défendons les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il existe une ligne entre Bordeaux et Dax, de même une ligne entre Bordeaux et Toulouse, et cette ligne en plus entre Bordeaux et Dax est encore plus performante puisque là les différences de temps sont vraiment infimes entre l'amélioration, le temps que l'on mettrait pour rejoindre Bordeaux à Dax par cette ligne actuelle et cette nouvelle ligne, ce serait vraiment un temps très très proche. Et par contre, avec un coût de réalisation et des conséquences tant sur l'environnement que sur l'impact sur les habitants qui sont concernés, considérable.
Là, vous parlez d'une ligne SNCF qui desservirait précisément l'Espagne et qui éventuellement pourrait avoir, auquel on pourrait justifier un financement européen.
Oui, alors justement, le problème, c'est qu'elle ne va pas jusqu'en Espagne, elle s'arrête à Dax.
À l'heure actuelle.
Oui. À l'heure actuelle. Oui, à l'origine, il était prévu d'aller jusqu'à Hendaye, mais compte tenu certainement, on ne connaît pas les raisons exactes, mais certainement des coûts pour traverser le Pays Basque et de l'impact que ça aurait. Donc le gouvernement a décidé de s'arrêter à Dax. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle l'Europe considère que cette ligne n'est pas une ligne transfrontalière et que s'arrêtant à Dax, ce n'est pas une ligne européenne.
sur Bordeaux-Dax, vous avez évoqué la question de la vitesse qui peut être plus importante sur Bordeaux-Dax que, par exemple, sur Bordeaux-Toulouse, sur les lignes actuelles, pour la simple raison que, comme les routes dans les Landes, la voie ferrée est très droite.
Oui.
Et signalons que sur cette portion-là, Bordeaux-Dax, on a fait des essais, des expérimentations de vitesse train. Et c'est là que, à un moment donné, le record du monde a été battu sur cette ligne-là. Donc, on vient de pas nous dire qu'on ne peut pas faire de la vitesse, si tant est que, qu'on voulait vraiment faire de la vitesse, qu'on ne peut pas faire de la vitesse sur la ligne existante.
Alors, donc, le recours est déposé. Bon, mais comme vous savez, tribunal administratif, c'est assez long. Bon, je ne pense pas qu'on aura des nouvelles d'ici la fin de l'année.
Il a été déposé auprès de qui ?
Auprès du tribunal administratif de Toulouse.
De Toulouse.
Oui, parce que la décision de ce financement a été faite par le préfet coordinateur qui était, dont je ne me souviens plus le nom, mais donc c'est la raison pour laquelle ce recours a été déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse. Et il y a également donc les élus qui ont déposé également un recours concernant également ce plan de financement, puisque le financement, vous savez que le financement de cette ligne dans ce plan de financement est assuré par 40% l'État, 20% les collectivités et 20% l'Europe.
40% les collectivités.
Oui, 40.
Oui, j'étais en train
40
de
et 20, oui, 40, oui. 40% l'État, 40% les collectivités et 20% l'Europe. Donc, et sachant qu'il est bien précisé que si l'Europe ne finance pas ou ne finance pas en totalité ces 20%, ce n'est pas l'État qui se substituera, ce sont les collectivités qui devront compenser.
Et quand on parle de
ça, ça n'a jamais été tellement abordé. Et il y a Maryse Combre qui l'a abordé à Agen, au Conseil, je me souviens, puisque on l'avait écouté en visio, mais personne n'a repris cette remarque, qui est quand même une remarque importante, parce que ça fait quand même, ça augmente considérablement, je dirais, la participation des collectivités à ce financement, si jamais l'Europe ne finançait pas.
Ce qui semble être le cas.
Ce qui semble être le cas, oui.
Oui, donc Florent, Europe Écologie, je me permets de parler un petit peu à la place de Maryse, mais elle évoque le chèque en blanc. Le chèque en blanc qui a été fait par les élus du territoire, donc de l'agglo d'Agen, par exemple, mais également d'autres territoires. Et donc, heureusement, effectivement, en ce qui concerne notre famille politique, nous avons le groupe écologiste et citoyen, parce qu'il n'y a pas que des encartés écolos à la région, mais ils ont fait un groupe et ils s'opposent vraiment avec vigueur contre ce projet, mais avec des arguments. Et notamment en ayant initié ce recours qui a été repris avec des élus de tous bords. Et ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, ce n'est pas un combat de famille politique. Cependant, je me permets de dire que ceux qui le défendent avec avec beaucoup de vigueur, comme le maire d'Agen, par exemple, en font un combat plus personnel et plus de politique politicienne. Et j'aimerais donc, j'appelle Monsieur le maire d'Agen et les élus qui l'ont soutenu jusque-là, à réfléchir un petit peu plus avant que les travaux ne commencent vraiment.
Je voudrais qu'on revienne un peu sur... Quand vous parlez des collectivités locales, on parle en fait là de deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, et on parle donc d'une multitude de départements, et donc évidemment de communautés d'agglomération. Comment ça se passe, ce panachage de...
Juste, hein. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux collectivités qui poussent vraiment, qui portent vraiment le projet, c'est la région Nouvelle-Aquitaine avec Alain Rousset et la région Occitanie avec Carole Delga. Voilà, c'est les têtes de pont pour réaliser. D'ailleurs, au passage, saluons les collectivités qui ont refusé de cracher au bassinet, si je puis dire, dans le Lot-et-Garonne, dans le conseil départemental de Lot-et-Garonne.
C'est pas le seul.
Non, c'est pas le seul. Il y a la Gironde également. Et
la Gironde.
La Gironde et le Lot-et-Garonne. Les deux conseils départementaux. Voilà. Voilà. Saluons leur courage quand même, parce qu'ils ont, quand même une pression très forte au-dessus d'eux. Et voilà, à ce jour, ils maintiennent leur position.
Le danger de cette position, que j'approuve totalement, bien évidemment, c'est qu'il y ait des représailles et que, à défaut de. Puisque des subventions, enfin des fonds vont manquer pour conclure le plan de financement, la région nous a déjà largement fait sous-entendre que des subventions qui auraient pu être accordées au Lot-et-Garonne ne le seront pas pour compenser le manque de financement pour la ligne à grande vitesse, qui est absolument incroyable. Eh oui, eh oui, il faut le savoir quand même. Il y a des pressions énormes, énormes. Et donc, il y a même des collectivités qui avaient annoncé dans un premier temps, je pense aux Landes en particulier, enfin certaines collectivités des Landes, qui avaient annoncé dans un premier temps qu'elles ne financeraient pas la LGV, qui ont subi des pressions d'Alain Rousset et qui, au final, ont financé. Et d'autres pour qui on a détourné également les votes. Je pense à M. Glaise, oui, par exemple, qui, lui, a dit je ne donnerai pas de financement pour la LGV, mais je donnerai un financement pour le développement du TER autour de Bordeaux. Et clairement, cet argent-là va servir à la LGV. Donc, c'est quand même des procédés qui ne sont pas tout ce qu'on pourrait qualifier de démocratique. Alors, sur ce sujet de démocratie, justement, une chose qui nous paraît, nous, association TGV en Albret, très choquante, c'est justement ce défaut de démocratie et qui va se manifester justement dans le cadre de notre rassemblement. Une enquête d'utilité publique a été faite. Cette enquête d'utilité publique qui consistait à interroger les citoyens pour savoir si, oui ou non, ils voulaient de ce projet, a conclu par un avis défavorable, parce que 93% des personnes qui se sont, ou des associations qui se sont manifestées dans le cadre de cette enquête publique ont rejeté le projet. Mais c'est pas grave. L'État et les instances concernées ont quand même décidé de le faire. Donc,
oui, non, pardon.
Mais on va retrouver, lors du rassemblement de samedi prochain,
oui, je voulais
la preuve que cette opposition massive est toujours valable, parce qu'on a déjà eu en retour des invitations qui ont été faites par notre association et l'organisation qui est absolument générale et qui concerne, donc, comme on le disait tout à l'heure, le Pays Basque, les Landes, la Gironde très impactée, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne, c'est-à-dire la majorité des départements de Sud-Nouvelle-Aquitaine, on va retrouver là des élus en très grand nombre. Des présidents et membres d'associations en nombre écrasant, et sans parler des citoyens. Donc on attend vraiment beaucoup de monde. Et qui
alors
vont...
on peut rappeler, donc, c'est samedi.
C'est samedi, c'est à Feugarolles, c'est à 10h30, c'est devant la mairie. Et évidemment, on appelle toutes les personnes disponibles qui pourraient venir nous manifester leur opposition à ce projet.
Bernard.
Et je rappelle que ce rassemblement se terminera par un casse-croûte gascon, qui est très important également.
Oui, ça, c'est effectivement important de le dire. On va conclure. On arrive au terme de notre émission. Bernard, peut-être une conclusion ?
Voilà, oui. Je voulais dire à propos de cette fameuse enquête d'utilité publique. Voilà, qui a permis, comme Madame l'a dit, qui a permis à plein de groupes, de citoyens, d'associations et autres d'exprimer leur point de vue, donc qui n'était pas favorable à la LGV. C'est l'étude qu'un groupe d'élus a fait faire et cette étude recommandait l'aménagement de la voie actuelle plutôt que la création d'une nouvelle voie. Cette étude a été reprise, enfin, les principaux éléments de cette étude ont été repris par le commissaire enquêteur. Il y avait l'avis des associations, bien sûr, le poids citoyen, mais il y avait aussi l'avis du commissaire enquêteur sur la base de cette étude qui a été
mandatée par qui, cette enquête,
cette... Alors, cette étude a été commandée par une association d'élus du Lot-et-Garonne et de Gironde. Voilà, et financée par eux.
Très bien.
D'ailleurs, à ce moment-là, moi, j'ai été élu, je faisais partie, justement, de cette association.
Très bien. Une conclusion, Catherine,
pardon. Non, je ne vais pas me permettre de conclure. Je vais juste apporter une précision, justement, enfin, une information concernant cette étude qui s'appelle l'étude Claraco. Très grande vigilance en Albret donne son assemblée générale jeudi, c'est-à-dire après-demain. Et M. Claraco lui-même va venir faire une intervention, donner des informations, des explications. Donc, qui veut venir à cette Assemblée générale, bien sûr, c'est totalement ouvert et à tous. Ça a lieu aussi à Feugarolles à 20h, après-demain soir.
Très bien. Jacques, une petite conclusion ou un dernier mot ?
Je trouve que... dans cette affaire, il manque beaucoup de bon sens et j'espère qu'on va retrouver la voie de la raison. Car je rappelle que pour aller d'un point à un autre, la ligne, il ne s'agit pas de faire plus de chemin pour aller plus vite et dire finalement on arrive au même endroit dans un temps plus court. Le mieux, c'est de trouver le chemin le plus court. Et là, ce n'est pas le cas. Et je rappelle simplement que pour aller de Toulouse à Paris, en passant par Bordeaux, ça fait 150 km de plus, tout simplement.
Que le POLT.
Oui, plus, hein, par rapport au POLT.
Oui, bien sûr. Jacques, une petite... Pardon, Bernard,
Jacques est mon père.
C'est Florent.
Jacques, c'est mon papa, donc je le salue. Voilà.
Toutes les occasions sont bonnes. Non, donc, Florent, une petite conclusion.
Je rappelle, parce que c'est bien l'histoire, mais l'histoire très récente nous rappelle que notre président, qui a été réélu, a dit les grands projets inutiles, c'est fini. Qu'il a dit récemment, j'ai un peu de mal, moi, avec l'abondance. Alors, j'aimerais savoir s'il y a beaucoup d'abondance en Lot-et-Garonne pour la majorité des Lot-et-Garonnaises et des Lot-et-Garonnais. Je ne le crois pas. Enfin, bon, mobilisons-nous, quels que soient vos âges. On voit souvent des personnes un peu de grands adultes. Samedi matin, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais les jeunes, mobilisez-vous. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné. Il y a des jeunes aujourd'hui qui payent 20% de plus pour aller étudier à Bordeaux. Leur billet de train, 20% de plus. Alors, si on veut faire des économies, il faut s'opposer à ce grand projet Sud-Ouest, à cette LGV. Mobilisons-nous tous, quels que soient nos âges.
Eh bien, je vous remercie tous. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Bulle 93.6, que nous étions donc avec Florent Prévost qui vient de parler, donc secrétaire départemental Europe Écologie et Verts. Il était accompagné de Bernard Perret, que nous aimons bien ici à Radio Bulle, puisque c'est un ancien, même un des fondateurs de Radio Bulle, donc qui est lui-même militant Europe Écologie des Verts. Et que nous avons eu le plaisir d'accueillir donc une association qui me semble était déjà peut-être pas l'association, mais en tout cas il me semble que vous étiez déjà venu sur Radio Bulle. Donc Catherine M, vice-présidente de TGV
en
Albret. Là je précise bien parce que ne nous trompons pas, et qui était également donc accompagnée de Jacques Doucet qui est membre de cette association. Chers auditeurs, merci, j'étais ravi d'être avec vous aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir à tous.